À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, j'ai pensé consacrer l'émission à l'imitation de Jésus-Christ, et en particulier au bienheureux Thomas à Kempis, qui en est reconnu de plus en plus à peu près par tout le monde comme l'auteur. Thomas à Kempis, un religieux, un moine qui est mort en 1471. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Dans mon jeune âge, ma mère m'avait remis, vers l'âge d'environ 10-11 ans, un magnifique cadeau, c'est l'un des plus beaux qu'elle m'ait donné, une très belle imitation de Jésus-Christ, reliée en cuir, à tranches dorées. C'était à l'époque, c'était comme ça, j'étais vers 1936-37, et je crois que mes frères aînés en avaient reçu aussi en cadeau. Car mes trois frères, lisaient avec beaucoup d'intérêt l'imitation de Jésus-Christ. On lisait beaucoup ça à cette époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Son auteur, c'est le bienheureux Thomas à Kempis, comme je vous ai dit. C'est l'auteur présumé, en tous les cas. Et il a reçu son nom à Kempis d'un village rhénan où il est né. Kempen, un Allemand. Son nom de famille, son vrai nom, c'était Emmerken. On sait très peu de choses de sa vie. Il n'y a pas d'événement bien saillant, hein, c'est un moine, quoi. Parce que tout s'est déroulé à l'intérieur de son âme, on peut dire. Il y a un auteur bénédictin qui dit qu'on pourrait lui appliquer la parole de Saint Grégoire à propos de Saint Benoît, fondateur des bénédictins. Le saint homme n'a pu qu'enseigner ce qu'il avait vécu. Et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans ce livre. C'est un livre qui relate un peu le développement spirituel d'un moine. Donc c'est partiellement éloigné de la vie des laïcs. On ne peut pas dire le contraire. Thomas Emmerken, ou Thomas Kempis, est né de parents plutôt simples en 1379. Et il a été attiré de bonne heure vers la vie religieuse, pour deux raisons d'ailleurs. Il était attiré, dès l'âge de 13 ans, par les frères de la vie commune. C'était une communauté réputée à l'époque pour son mysticisme. Il est entré à Deventer, où son frère, de 15 ans plus âgé que lui, l'avait précédé. Dans cette communauté, dans ces couvents, il y en avait plusieurs, et en dehors de la prière, la principale occupation, c'était la transcription des manuscrits. C'était donc avant l'invention de l'imprimerie. La transcription des manuscrits, qui avait l'avantage de fournir une occupation intellectuelle à ces hommes instruits, et aussi de les faire vivre. Ça leur attirait des revenus pour se nourrir, pour se procurer d'autres manuscrits, et pour construire leur couvent, et pour accueillir d'autres jeunes gens qui voulaient s'unir à leur vie qui va être sans doute passionnante pour ceux qui aiment ça. Moi, ça m'aurait passionné. Alors, le jeune Thomas Emmerken entre donc en 1393 et il est accueilli par des religieux de grande renommée, car il y avait là des gens très réputés, dont en particulier le fondateur de cette communauté, qui était un ami de Jean Ruysbroeck, le fameux mystique Ruysbroeck dont je vous ai parlé. Si je me souviens bien, le 1er décembre 1995, je lui avais consacré toute une émission. Alors, il fréquente d'abord notre jeune Thomas l'école de grammaire de Deventer, 6 ans durant. Puis, il suit à la nouvelle fondation de Mont-Saint-Agnès, près de Zwol, son frère, qui en est-il le premier prieur en 1399, donc 6 ans après son entrée. Mais la règle ne permettait pas de recevoir deux frères dans la même communauté. Comme vous voyez, c'était plus strict qu'à Lisieux. On n'avait quatre jeunes femmes du nom de Martin, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fin du siècle dernier. Alors, il lui faut à notre Thomas, le bienheureux Thomas à Kempis, il lui faut une dispense. Il l'attend longtemps, il ne réussit à faire profession que 6 ans plus tard. On ne sait pas grand-chose, comme vous voyez, sur sa vie. La majeure partie de son existence s'est donc écoulée dans ce couvent du Mont-Saint-Agnès, à Zwoll, où il est sous-prieur, finalement, et maître des novices. Une existence recueillie de moine dans sa cellule. C'est ça, d'ailleurs, que reflète le livre de l'Imitation de Jésus-Christ, qui lui est de plus en plus généralement attribué, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a remarqué, en effet, qu'aucun manuscrit n'est antérieur à 1424, des manuscrits de l'Imitation. Et Thomas était à ce moment-là en pleine possession de son talent. Au 15e et au 16e siècle, d'ailleurs, le livre lui est universellement attribué. Et depuis, il existe, c'est très intéressant, ça, à la Bibliothèque royale de Bruxelles, un manuscrit de la main de Thomas à Kempis lui-même, est signé, il l'a signé. L'Imitation y est insérée parmi d'autres œuvres de Thomas à Kempis dans ce manuscrit de la Bibliothèque royale de Bruxelles. Et ce manuscrit, en outre, porte un grand nombre de modifications, de corrections ou de surcharges de la main de Thomas à Kempis. Et cela dénote assez que le copiste le considère comme son bien propre. Il copie son œuvre qui est de lui. Or, le procédé n'est pas habituel à Thomas, qui est coté, lui, comme un moine copiste très soigneux. Il ne corrigerait pas le texte de quelqu'un d'autre. Et quand on examine la langue qui est remplie de néerlandisme, c'est-à-dire de caractéristiques de la langue néerlandaise, et puis les caractéristiques de la doctrine qui sont proches de toute l'œuvre de Thomas à Kempis, tout ça vient renforcer les raisons qu'on a d'attribuer l'Imitation de Jésus-Christ à Thomas, au bienheureux Thomas à Kempis. Autrefois, il y a quelques années, je vous l'ai dit, on lisait l'Imitation de Jésus-Christ, non seulement dans presque toutes les communautés religieuses, mais dans quantité de foyers. Beaucoup de fidèles possédaient dans leur bibliothèque ce livre. C'était souvent un livre de chevet, moi ça a toujours été sur ma table, ça l'est encore, ma table de chevet. C'est un souvenir de ma mère, évidemment, mais je m'y réfère assez souvent car, évidemment, j'ai été moine ne serait-ce que 2 ans, de 44 à 46. Il y a bien longtemps ça, plus de 50 ans. Mais je suis toujours resté attaché à certains aspects de cette belle spiritualité de type monastique. Alors, donc, beaucoup de gens la possèdent. Et souvent, autrefois surtout, ils y recouraient, même plus souvent qu'au Nouveau Testament. C'est pas une bonne chose. Ce livre a fasciné bien des générations. Il a été traduit en français par nul autre que Corneille, le grand auteur dramatique français. Puis aussi par Lamennais. J'en ai une traduction ici. J'ai celle de Corneille. J'ai peut-être une 20aine d'imitations ici, dont certaines dans des reliures absolument somptueuses que je me suis procurées à très bas prix en France, dans des petits villages. Les gens se défaisant de leurs beaux livres. Ce livre de l'Imitation de Jésus-Christ était conseillé aux convertis, aux moines, même à l'homme et la femme du monde, vous savez, les gens mondains, qui étaient désireux de raviver puis d'approfondir leur foi. On peut dire que ni Saint Jean de la Croix, ni Toller, dont je vous ai déjà parlé, ni Saint François de Sales aussi, ce sont des saints dont je vous ai parlé, n'ont connu un aussi grand succès que l'Imitation de Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a quelques jours, dans le bréviaire, ou si vous voulez, la liturgie des heures, eh bien, au 3e mardi de l'Avent, il était question de l'Imitation de Jésus-Christ, puis on en citait de très beaux passages, comme ne te préoccupe pas de savoir qui est pour toi ou contre toi, mais fais le nécessaire pour que Dieu soit avec toi en tout ce que tu fais. Ou bien, l'homme bon et pacifique change tout en bien. Ce sont des merveilles que l'on trouve comme ça dans l'Imitation de Jésus-Christ et qui sont citées dans les prières officielles de l'Église. Aujourd'hui, l'Imitation n'est presque pas lue, et ceux qui la lisent ou qui l'ont lue avouent souvent ou prétendent ne pas l'aimer. Ça fait bien de ne pas l'aimer. C'est qu'il faut dire que le texte apparaît en contradiction. C'est vrai, en contradiction avec ce que l'on veut donner dans le christianisme d'aujourd'hui, ce qu'on veut donner à la vie chrétienne. Et c'est sûr, hein? La spiritualité a changé, et la spiritualité que j'appellerais moderne est très belle aussi, quand elle est sûre, quand elle est bien. Il y a tellement de beaux livres de spiritualité aujourd'hui qui sont parus depuis 20-30 ans. Ceux qui l'ont lu et relu autrefois disent que, souvent dans les mains de certaines autorités, en particulier dans des communautés de sœurs, bien, le livre pouvait servir à remettre les membres de la communauté dans leur rang et voir parfois même à amputer les énergies que l'on désirait mettre au service de Dieu. Et il y avait des supérieurs qui disaient, oh ben ne pensez plus à tout cela, hein. Lisez donc l'Imitation. Comme si ça pouvait éteindre une personnalité. Et c'est peut-être un des dangers de l'Imitation. Il faut faire attention. Parce qu'il y a là un retour à soi-même. Un tel esprit, un tel goût du silence. Une telle prise de distance là, par rapport à l'action. Que c'est davantage prôné, il me semble, moi, que la valeur de l'engagement, les joies, les combats de la fraternité pour trouver la justice dans le monde. Il y a aussi, on parle pas de la joie et de la jubilation de célébrer ensemble l'office liturgique. C'est une spiritualité très monastique, mais quand même très belle. Quand un homme s'humilie de ses manquements, il lui est facile, dit l'Imitation, d'apaiser les autres, et il gagne facilement ceux qui s'irritent contre lui. L'humble, Dieu le défend et le délivre. L'humble, il le chérit et le console. Vers celui qui est humble, il s'incline, à celui qui est humble, il accorde une grâce abondante. Et après son abaissement, il le fait monter vers la gloire. Vous voyez le genre de pensée et de réflexion qui est très belle, mais à la longue, ça peut être délicat. L'homme passionné transforme en mal le bien lui-même et croit facilement au mal. L'homme bon et pacifique change tout en bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, et celui qui est vraiment en peine n'a de soupçons envers personne, mais celui qui est mécontent et troublé se laisse agiter de mille façons. Lui-même ignore le repos et il en prive les autres. L'Imitation de Jésus-Christ, donc, de Thomas Kempis, est une œuvre particulièrement intéressante pour une raison en surtout, c'est qu'elle est très près de la Bible. On y trouve plus de 1000 citations directement empruntées à la Bible, ou du moins très étroitement inspirées de textes de la Bible. Et on y trouve aussi beaucoup de traits de la spiritualité de Saint Bernard de Clairvaux, de Guillaume de Saint-Thierry, dont un jour j'espère vous parler, quel grand spirituel. Et puis ça reflète un mouvement de renouveau qu'on appelle la dévotion moderne, hein, devotio moderna, qui était très populaire dans l'Europe de l'Ouest durant les dernières décades là, du 15e siècle. En 1983, Pierre Guibert a traduit à nouveau l'Imitation de Jésus-Christ. C'était une édition assez intéressante. Il y a aussi l'édition du livre de Poche Chrétien, que l'on trouve encore. Et on s'est posé la question, de savoir comment insérer tout ça dans la culture générale. C'est un tour de force aujourd'hui que de faire lire ça à des plus jeunes. Mais quand certains jeunes les lisent, et s'ils sont bien guidés, ça peut leur être profitable. Mais c'est mieux qu'ils soient bien guidés. Guidés dans la joie, guidés dans l'engagement, afin qu'ils ne se retirent pas enfermés dans une forme de retrait monastique qui serait entachée d'une forme de démission et presque de désespoir. Ce livre sera lu aujourd'hui, de toute façon, en 1996, en l'an 2000, en l'an 2050, par tous ceux qui intéressent la littérature chrétienne. La littérature chrétienne demeure quelque chose d'extrêmement passionnant. Chez Flammarion, on vient de publier un immense bouquin, « Histoire chrétienne de la littérature, l'esprit des lettres de l'Antiquité à nos jours », sous la direction de Jean Duchesne. Et c'est dans ce livre qu'il est question ici et là de l'imitation, et à un moment donné, on dit à la page 622, Benoît Labre, dont je vous ai déjà parlé, j'ai fait une émission sur Benoît Labre, Saint Benoît Labre, qui est mort en 1783, très jeune, il n'avait même pas 40 ans, eh bien, Benoît Labre est le témoin le plus extraordinaire du courant d'intérêt pour l'imitation. Affublé d'une défroque rappelant la bure franciscaine, avec son chapelet et ne quittant pas son imitation de Jésus-Christ, il a parcouru l'Europe en pèlerin mendiant. Il se confiait entièrement à la Providence. Une vague immense de dévotion suivit sa mort. C'est vrai, Saint Benoît Labre est encore populaire même parmi des incroyants. C'est assez étonnant, hein? On peut laisser de côté toutes ces anecdotes au sujet des traductions. Pendant plusieurs siècles, l'imitation a été lue comme un texte sans date. On a fait un livre presque intemporel. Hein? L'imitation, dans ce temps-là, peut être un peu nuisible si ça se situe au-dessus de nos engagements. Comme tout ouvrage de spiritualité, c'est un livre militant dans un sens, c'est-à-dire que ce livre cherche à nous entraîner sur ce qui lui paraît la bonne voie, à l'encontre des modes de, certaines personnes diraient, du bag. Si l'imitation promeut une religion du cœur, dans la ligne de ce qu'on appelle la dévotion moderne, la devotio moderna, c'est que l'Église dans laquelle a évolué son auteur, mais c'est une Église de la pratique, des œuvres et souvent de la lettre. Et à sa manière, l'auteur, Thomas Kempis, mène le même combat que deux réformateurs, Luther et Toller, en visant surtout, comme Toller, la purification du cœur. Surtout ça. Plutôt que la réforme de toute l'institution. Il se dit, mieux vaut changer notre cœur, et ainsi nous changerons l'Église. C'est pas la peine de la diviser. Mais non, convertissons-nous et gardons notre unité. Ce qui me plaît le plus dans ce livre, c'est qu'il affirme le primat de l'intériorité sur les œuvres extérieures. Ça m'a toujours plu, ça. Mais ces œuvres, telles que semble le comprendre l'imitation de Jésus-Christ, ne sont pas l'engagement requis de tout chrétien, dans toutes sortes de situations dans le monde où l'on est. Tout au plus, elles en sont presque une caricature. Exemple, c'est là qu'il faut faire attention avec l'imitation. Il fait l'éloge de la solitude critique, implicitement le divertissement, mais non pas la fraternité. Le désintérêt pour la science chez Thomas Kempis ne vise pas l'intelligence de la foi. On voit bien les contresens que certains lecteurs ont pu faire et auxquels le texte se prête d'ailleurs. C'est là que ça peut être dangereux. En tout cas, c'est périlleux on pourrait dire, de décharner ce livre-là en ignorant les erreurs pratiques qu'il combat. Et parce que lu sans discernement, c'est là, il risque de démobiliser ceux qui ont amené des vrais combats dans notre société, dans notre Église. Plus que tout autre ouvrage de ce type, l'imitation a conduit parfois à donner corps à ces séparations entre les spirituels, les théologiens et les militants. Il faut faire attention. Si je vous mets en garde, je ne saurais que vous recommander quand même de lire l'Imitation et de méditer l'Imitation. L'Imitation de Jésus-Christ, c'est loin d'être sans valeur et sans intérêt. Ah, c'est ambigu peut-être, mais c'est un livre qui nous aide à sourire lorsque on devient saisi par des études de toutes sortes, sous prétexte de servir la foi. L'Imitation nous dégage de ça. Il nous donne le besoin d'agir pour le service de l'Évangile aussi. Et puis, il nous aide aussi à éviter d'avoir peur de la solitude. Et elle tient dans nos vies un rôle analogue à celui des livres de l'Ancien Testament qui disent certaines choses qui sont d'ailleurs citées dans l'Imitation. Et l'Imitation nous aide à ne pas nous prendre pour des anges, et c'est très bien. Mais l'ambiguïté demeure jusqu'à la fin, et il faut faire attention. C'est un livre qui m'est très cher, qui me sera toujours très cher en dépit de tout ce que je viens de vous dire. Il date du temps où l'on prenait le titre du premier chapitre comme titre de tout le livre. C'est pour ça qu'il s'appelle « L'Imitation de Jésus-Christ ». Et voici quelques extraits d'ailleurs de ce premier chapitre, dans la traduction de l'Amenée. Le premier chapitre est si intitulé « Il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde ». Je lis quelques passages. « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. » Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints. Et qui posséderait son esprit trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là vous déplaisiez à la Trinité? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chair à Dieu. Ça nous rend objet de l'amour de Dieu. Une vie pure rend chair à Dieu. « J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition, » dit l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Il ajoute « Quand vous sauriez toute la Bible et toutes les sentences des philosophes, que vous servirez tout cela, sans la grâce et la charité. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Or, aimer Dieu et le servir lui seul, la souveraine sagesse, est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité, donc, d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Rappelez-vous souvent cette parole du sage. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. » Le bienheureux Thomas Kempis était un moine et son livre relève de la spiritualité, surtout des moines, mais s'applique grandement à ceux qui savent le lire en dégageant la fine substance pour l'appliquer à leur engagement dans le monde ou à leurs activités religieuses ou sacerdotales. La spiritualité allemande, d'ailleurs, du XIVe siècle, c'était une spiritualité qui a été marquée par Maître Eckhart. J'ai fait une émission sur lui le 8 avril 1996, cette année. Henri Suzeau, le bienheureux Henri Suzeau, j'ai fait une émission sur lui le 23 janvier 96, ainsi que Ruiz Brock, je lui ai consacré une émission, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 1er décembre 1995. Bien, cette spiritualité allemande était surtout abstraite, elle était difficile à comprendre. C'était une spiritualité qui se perdait souvent dans des spéculations sans guère d'utilité pratique, on pourrait dire. Tout en étant extrêmement belle, comme j'ai essayé de vous le montrer dans ces trois émissions. Il y a une réaction qui s'est produite à la fin du siècle. On voulait revenir à une spiritualité affective. On ressent un peu ce courant-là aujourd'hui dans l'Église. Une spiritualité affective sans art ni système. Une spiritualité qui se propose de donner des conseils appropriés plutôt que de scruter les mystères de l'union mystique. Alors, les auteurs de cette Devotio Moderna, dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, exposaient leur doctrine sous forme, disons, de maximes détachées, comme je vous en ai lu tout à l'heure dans ce qu'on appelait autrefois le bréviaire, hein, des maximes détachées, un peu comme celles que certaines personnes lisaient quand j'étais plus jeune, les maximes de La Rochefoucauld, les maximes de Vauvenargues. J'espère qu'il y a des jeunes qui lisent ça encore. Alors l'auteur, le bienheureux Thomas Kempis, l'auteur de l'Imitation, il est, lui, de cette école. Dans la première partie de l'Imitation, chapitre 3, il écrit « Ah, si on mettait autant de soin à extirper les vices des âmes, et à y faire naître les vertus qu'à agiter des questions subtiles, il ne se produirait pas tant de scandales dans le peuple, ni un grand relâchement dans les monastères. » Dans le premier chapitre que je viens de vous lire, il dit bien, je vous le rappelle, « Que te sert de raisonner profondément sur la Trinité si tu manques d'humilité et que tu déplaises par là à la Trinité ?» C'est fondamental, hein? C'est fondamental car toute notre vie aspire à plaire à la Trinité. Ô Sainte Trinité, oui. Thomas Kempis veut faire avant tout un livre, donc, de dévotion pratique. Débarrasser des discussions savantes. Il dit volontiers du mal de la science à un moment donné, parce qu'elle conduit rarement à Dieu. Un instant, il va se reprendre. Alors, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de lire. Il dit dans la première partie, au chapitre 2, « Il est bien insensé celui qui s'applique à d'autres choses qu'à celles qui sont utiles à son salut. » Mais il se corrige. Il ajoute, « Ce n'est pas qu'il faille blâmer la science, car elle est bonne en soi et dans l'ordre de Dieu. Seulement, on doit toujours préférer une conscience pure et une vie sainte. Souvenez-vous toujours de ce que disait Thérèse d'Avila, qu'elle préférait un directeur de conscience à la vie pure et sainte qu'à quelqu'un qui était trop sec en théologie. Mais elle voulait quelqu'un savant quand même. Les premiers chapitres de l'Imitation tracent assez clairement tout son programme. Thomas Kempis veut apprendre à l'homme que la vie chrétienne, sérieusement vécue, est seule pratique, seule même possible, seule capable de donner un peu de bonheur en ce monde. Et la spiritualité du bienheureux Thomas Kempis est tout intérieure et ramène la sainteté à quoi? Au renoncement à soi-même, condition nécessaire de la perfection et de l'union à Dieu. Il écrit à ce sujet des choses très belles que l'on retrouve dans ce livre dont je vous ai parlé, qui est paru il y a quelques semaines, chez Flammarion, cet immense ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, Histoire chrétienne de la littérature. Alors, il écrit à un moment donné dans son Imitation, c'est au livre 3, chapitre 37, et c'est cité ça, dans ce gros bouquin, dans les pages 388-389. « Je vous l'ai dit bien des fois, et je vous le redis encore. » C'est Jésus qui parle, il fait parler Jésus. « Quittez-vous, renoncez à vous, et vous jouirez d'une grande paix intérieure. Donnez tout pour trouver tout. » ne recherchez, ne demandez rien. Demeurez fortement attaché à moi seul, et vous me posséderez. Votre cœur sera libre et dégagé des ténèbres qui l'obscurcissent. Que vos efforts, vos prières, vos désirs n'aient qu'un seul objet, être dépouillé de tout intérêt propre, de suivre nu Jésus-Christ nu, de mourir à vous-même, afin de vivre pour moi éternellement. Alors s'évanouiront toutes les pensées vaines, les pénibles inquiétudes, les soins superflus. Alors aussi s'éloigneront de vous les craintes excessives, et l'amour déréglé mourra en vous. Ce sont des textes très, très beaux, mais il faut faire attention pour les interpréter comme il faut et avec sagesse. Thomas Kempis se préoccupe assez peu de l'ordre à suivre dans son livre. Comme Jésus-Christ, il répand ses idées sans essayer de les classer d'après une ordonnance très régulière et très systématique. Il se propose bien de prendre l'homme au plus bas degré de la moralité pour l'élever au sommet de la perfection. Il y a des commentateurs qui ont cherché à découvrir dans son livre un enchaînement rigoureux des doctrines qu'on appelle les doctrines ascétiques et mystiques. Mais si on y trouve des conseils appropriés aux trois voies qu'on préconise en vie religieuse, vie mystique, les conseils ne suivent pas l'ordre des livres. Et on pourrait faire une analyse là-dessus. Mais de ce que l'auteur n'a pas voulu suivre de plan, il résulte un grand avantage. L'avantage que l'on peut ouvrir le livre à n'importe quel endroit que ce soit. Et dans tout état d'âme, on trouve souvent la réponse que l'on cherche. Si vous n'avez pas d'imitation, achetez-en une et vous verrez. Laissez-la traîner, ouvrez-la à l'occasion, vous y trouverez toujours une réponse. C'est mystérieux à des problèmes qu'on se pose. C'est très curieux. Oh, l'Évangile aussi, hein? L'Évangile est d'une telle richesse. L'auteur était certainement capable de donner une suite logique à sa pensée. Il écrit des choses absolument admirables sur les merveilleux effets de l'amour divin, l'épreuve du véritable amour, les différents mouvements de la nature et de la grâce, la corruption de la nature et l'efficacité de la grâce divine. Tout ça, ça peut être étudié avec tellement de joie. Je me suis toujours plu à les lire. On trouve rien à retrancher dans tout ça, rien à ajouter, rien à modifier. C'est d'une telle beauté. Et les gens qui m'entendent et qui sont contre l'imitation, faites un effort. Cessez de vous imaginer que c'est un mauvais livre. C'est un très beau livre. Il ne décrit pas les œuvres admirables et nombreuses qui sont le fruit du grand dévouement chrétien à travers l'histoire, c'est sûr. Il n'écrit pas pour un ordre militant ni pour les gens du monde. Il écrit à un moment donné, « Si tu ne peux pas te rendre tel que tu le voudrais, comment pourras-tu avoir le prochain selon ton gré ?» En somme, si tu ne peux pas te changer, comment peux-tu changer ton prochain ? Il ajoute, « Nous aimons que les autres soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons pas les nôtres. » Comme c'est donc vrai. Je répète, moi, je me reconnais là-dedans. Nous aimons que les autres soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons pas les nôtres. Bien oui. Son livre, c'est un manuel irréprochable d'ascétique chrétienne, de perfection religieuse. C'est absolument admirable. Cette intelligence compatissante de nos faiblesses et de nos chutes, a écrit un grand auteur, indique assez que ce grand livre a été achevé lorsque le christianisme avait longtemps vécu, lorsqu'il avait acquis, avec l'expérience, l'indulgence infinie. On y sent partout une maturité puissante, une douce et riche saveur d'automne. C'est une doctrine qui a pu parfois aux jansénistes. Les jansénistes ont abusé de quelques expressions à double sens. Ils ont essayé d'attirer à eux ce livre grandiose. Mais il suffit de bien comprendre les textes que ces gens-là ont choisis pour les ramener à ce qu'on pourrait appeler une pensée orthodoxe, c'est-à-dire une pensée sûre, saine et vraiment catholique. C'est ce que ça veut dire orthodoxe, mais catholique veut dire universel. Or, quand nos deux églises seront unies, nous serons à la fois dans l'orthodoxie et dans l'universalité. De même, il y a eu parfois une accusation de quiétisme qui a été donnée, hein? Et Bossuet l'a défendu, l'imitation. L'imitation ne cesse de traiter de sujets délicats. L'imitation envisage ces sujets délicats dans leurs conséquences pratiques, mais sans jamais donner prise à la critique. La spiritualité de Thomas Kempis, toute simple qu'elle paraisse, est une spiritualité savante, dont Thomas Kempis ne peut être qu'un docteur remarquable, un grand docteur. Il résume la conception de notre destinée dans les mots dont on se sert pour identifier son livre. C'est l'imitation de Jésus-Christ. C'est sûr qu'il n'avait pas donné ce titre à son livre. C'est le titre du premier chapitre qui est donné au livre comme on faisait à l'époque. Il établit sa thèse sur « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres ». Ce sont les paroles de Jésus-Christ par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie. Ce sont les premières paroles de l'imitation, je vous l'ai dit. Il dit plus loin « Il faut aimer Jésus-Christ par-dessus tout ». De la familiarité que l'amour établit entre Jésus et l'âme fidèle. C'est beau ce chapitre. Un autre chapitre dit « Du petit nombre de ceux » qui aime la croix de Jésus-Christ. Il en a un très beau qui m'a toujours étonné, de la sainte voix de la croix. Mais encore là, c'est délicat. Il faut bien comprendre que c'est l'amour qui prime. L'amour qui prime dans la spiritualité qui nous a été donnée par Jésus. Aimer Dieu de toute notre âme. Aimer notre prochain de toute notre âme. Mais ça passe par le dépouillement, ça passe par ce qu'on appelle la croix. La popularité de l'imitation a été immense. Thomas Kempis, on peut le compter parmi les grands bienfaiteurs de l'humanité. C'est saint François de Sales qui disait d'une façon absolument merveilleuse que ce livre a converti plus d'âmes, que son livre ne contient de syllabes. Combien de gens ont été consolés dans l'épreuve en lisant ce livre? Combien de gens ont été soutenus dans la lutte, engagés par la suite dans une voie toujours plus parfaite? À peine le livre est-il connu à l'époque que les manuscrits se sont multipliés en nombre considérable. Et quand l'imprimerie a été inventée, c'était un des premiers livres à être édité après la Bible, en 1475 au plus tard. C'est donc des incunables, comme on dit, des livres qui datent du berceau de l'imprimerie. On compte plus de 80 éditions antérieures à 1500. 80 éditions incunables. C'est incroyable, hein? Avant la fin du 15e siècle, donc avant 1500, il commençait à être célèbre en Italie. Il y avait une bienheureuse, Osanne Andreassi, qui en a parlé avec beaucoup d'éloges au 16e siècle. Il jouit d'une telle réputation que des personnages très fameux, comme Saint-Charles Borromée, je vous ai fait une belle émission sur Saint-Charles Borromée, ça avait beaucoup plu. Saint-Philippe Néri aussi, je vous ai fait une émission sur lui. Saint-Ignace, j'ai fait aussi une émission. Mais ces trois saints le recommandaient à tous leurs religieux. Ils en faisaient leur livre de prédilection, les jésuites. Saint-François de Sales l'appelle, lui, un élixir et un consommé de l'Évangile. Il le portait toujours sur lui, d'ailleurs, relié dans le même volume avec le combat spirituel. C'est le pape Alexandre VII, qui est mort en 1667, a parlé plusieurs fois de mettre l'auteur au nombre des bienheureux, si l'on pouvait découvrir ses ossements. Mais il est appelé bienheureux. Après la Bible, aucun livre n'a été plus souvent imprimé, traduit en plus de langues. Non, aucun livre. C'est le plus traduit et imprimé le plus souvent. À la fin du XVIe siècle, on constatait que c'était vraiment le plus grand succès de librairie, déjà. Aujourd'hui, le nombre des éditions en latin, des traductions en toutes sortes de langues, s'élève à quelque 3500. Le nombre des éditions françaises dépasse largement 1000. Nulle part, peut-être, l'imitation n'a eu autant de vogue qu'en France, faut dire. Et quelques-unes sont très riches, j'en ai, très recherchées des bibliophiles. Et les plus grandes sont immenses. J'en ai raté une belle fois, une chose n'était pas chère, parce que les livres religieux suivants ne se vendaient pas cher il y a 10 ans. Les plus petites ont quelques centimètres seulement. On en a fait des petites éditions toutes petites. Il n'y a presque pas de langue. Même parmi les plus reculés, les plus barbares, on pourrait dire. Ça a été traduit en groenlandais. Oui, au Groenland. En malais, etc., etc. En français seulement, il y a une centaine de traductions. Les plus connus, je vous l'ai dit, Pierre Corneille en vers. Il y a le maître de Sacy. Il y a Michel de Marillac, le père de Gonelieu, et puis Lamennais. Dans les autres pays, elles sont également très nombreuses. C'est un livre universel. C'est le livre, comme on disait il y a quelques années, le livre de l'humanité. Et il est tombé un peu dans l'oubli. Il est admiré aussi bien par les incrédules, les hérétiques que les catholiques. Les protestants en comprenaient si bien la valeur dès le XVIe siècle que un protestant, Chatillon, dans une paraphrase latine, n'a pas hésité à supprimer le quatrième livre tout entier et à modifier les passages des autres livres, selon lui, trop catholiques. Cette édition a évidemment été mise à l'index. Parce qu'il y a des beaux chapitres sur l'Eucharistie, de très belles choses sur l'Eucharistie dans ce livre. Le témoignage des saints et des théologiens a énormément de valeur, il me semble, pour chacun d'entre nous. Le père Louis de Grenade, je vous ferai une émission bientôt, le dernier jour de l'année, sur lui, a traduit le livre en espagnol. Il disait « Quelques louanges qu'on donne à ce livre, ceux qui le considéreront avec un esprit de piété diront, après l'avoir lu, ce que la reine de Saba dit après avoir vu la gloire de Salomon, votre sagesse est plus grande que votre réputation et ce que vous faites passe tout ce qu'on dit de vous. » Oui, l'imitation est une immense source de réflexion. Et je voudrais terminer en vous lisant un beau chapitre de l'exemple des saints. Il dit, Thomas Kempis, « Contemplez les exemples des saints-pères, en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse, et vous verrez combien peu est-ce que nous faisons, et presque rien. » Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur? Les saints et les amis de Jésus-Christ ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans l'éveil et dans les jeûnes, dans les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobes. Oh, que de pesantes tribulations ont souffert les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ. Ils ont haï leur âme en ce monde pour la posséder dans l'éternité. Il cite presque Saint Jean, chapitre 12, verset 25. Oh, quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des saints dans le désert! Il s'étend longuement là-dessus, et tout ça est très contraire, finalement, à la belle spiritualité de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui nous dit bien qu'on peut se sanctifier dans les moments tout simples de la vie. Tout simples de la vie. Plus loin, dans son chapitre, il dit « Tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu'ils donnaient à Dieu leur semblaient courtes. Ils trouvaient tant de douceur dans la contemplation qu'ils en oubliaient les besoins du corps. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, à leurs amis, à leurs parents. Ils ne voulaient rien du monde. Ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour la vie. S'occuper du corps, même dans la nécessité, leur était une affliction. » Vous voyez là le danger. Faut pas verser dans ces aspects négatifs et qui touchent presque au jansénisme. Il ajoute, ils étaient pauvres des choses de la terre, mais ils étaient riches en grâce et en vertu. Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au-dedans par sa grâce et par ses consolations. Et là, on tombe sur des versets absolument sublimes comme celui-ci que je viens de vous lire. Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et à ses amis familiers. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi, chaque jour, plus parfaits, plus agréables à Dieu. Et ce chapitre se termine ainsi. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle et qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Ô tiédeur, ô négligence de notre état, qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur. Maintenant, tout fatigue notre lâcheté jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. Plût à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux, vous ne laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu. Alors, quand on le lit comme ça, vous voyez les belles phrases, les choses magnifiques, mêlées à des petits détails un peu trop stricts, qui prennent presque un aspect négatif. Mais il faut quand même, je le répète, ne pas oublier que ce livre est un grand livre. Dans la messe aujourd'hui, dans le psaume 70, il est bien dit, « Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. » Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Oui, nous sommes choisis dès le ventre de notre mère, au moment où on est ce qu'on appelle un fœtus. Nous ne sommes pas des fœtus, nous sommes des enfants. Il est bien dit d'ailleurs dans la lecture du livre des Juges, l'enfant sera voué à Dieu dès sa conception et jusqu'au jour de sa mort. Thomas à Kempis a été sans doute choisi dès sa conception pour écrire ce très beau livre. Remercions bien le bienheureux Thomas à Kempis en étant prudent en lisant son livre.